merci de nous rejoindre. Qui sont nos soldats? À partir de 12h55, rendez-vous avec les journalistes Justine Brabant et Leila Mignano, auteurs de Mauvaise troupe, qui paraît aux arènes. Ensemble, elles ont enquêté sur ces jeunes recrues de l'armée française, cible des campagnes de recrutement qui ont suivi les attentats de 2015. Mais d'abord, dans la première partie de la Grande Table, retour sur l'œuvre de Robert Frank, l'ami américain. Le photographe, né en Suisse en 1924, installé aux États-Unis puis au Canada, en Nouvelle-Écosse, où il est décédé le 9 septembre dernier. Robert Frank restera pour toujours comme l'homme des Américains. Le livre préfacé par Kerouac et qui a fait date dans l'histoire de la photographie. Pour l'heure, deux invités pour nous en parler. Raymond Depardon et Quentin Bajac sont avec nous jusqu'à midi et demi sur France Culture.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
On finit par découvrir qu'il n'y a rien de plus intéressant que les gens. Les visages sont plus intéressants que les paysages. Alors je me suis concentré pour me rapprocher des gens.
Voilà les mots de Robert Frank en introduction de cette Grande Table qui lui est consacrée aujourd'hui. À noter que jusqu'à vendredi, tous les soirs à 20h, vous pourrez écouter ce maître de la photographie, Robert Frank, documentariste du mois, à voix nue sur France Culture. Avec nous aujourd'hui, le photographe et réalisateur Raymond Depardon, qui présente en parallèle ses photographies militaires au musée des armées de l'école du Val-de-Grâce à Paris et au musée national de la marine à Toulon, une double exposition dont on vous reparlera. Bonjour Raymond Depardon.
Bonjour.
Et bonjour à vous Quentin Bajac, ancien conservateur en chef du département de la photographie au MoMA, nouveau directeur du Jeu de Paume à Paris. En cours toujours au Jeu de Paume, l'exposition Salimane, à venir celle de l'artiste new-yorkais Peter Hujard. Bonjour.
Bonjour.
Robert Frank, Quentin Bajac, c'était une figure du département photo du MoMA que vous avez dirigé, le musée d'art moderne et contemporain de New York. Il y avait ses entrées, on imagine.
Oui, c'est quelqu'un qui a eu une longue histoire avec le MoMA, une histoire qui a commencé dans les années 50, alors qu'il est jeune photographe et qu'il arrive à New York et qui se décrit d'ailleurs dans un courrier qu'il adresse au chef de département photo du MoMA comme un photographe de mode, ce qui est très loin de la perception qu'on en a aujourd'hui.
Il n'aimait pas trop ce milieu par ailleurs.
Non, il n'aimait pas trop ce milieu. Ouais. Il a évidemment cherché assez vite à s'en éloigner et il a réussi. Mais voilà, il y a eu une longue histoire du MoMA. Il y a été présenté. Le MoMA a fait l'acquisition de Goom d'un grand nombre de tirages. Donc il est bien évidemment avec Walker Evans et avec d'autres, Diane Arbus notamment, une des grandes figures de la collection du MoMA.
Oui, et c'est le MoMA qui va le faire connaître en incluant 7 de ses photos dans l'exposition The Family of Men, une exposition mondiale organisée par Station qui va faire le tour du monde hein, et faire connaître aussi Robert Frank à ce moment-là. Je crois qu'on le retrouvera quelques années après en 61, en 62 pour une exposition rien qu'à lui, c'est ça au MoMA?
Absolument, il a une petite exposition au début des années 60, donc 61 très exactement. Et Station, donc le chef du département à cette époque, l'a suivi. Il l'a beaucoup soutenu. Et notamment, il a été un de ses tuteurs ou promoteurs ou lorsque Robert Frank a fait une demande de bourse pour un voyage aux États-Unis au milieu des années 50. Et cette demande de bourse a été bien évidemment appuyée par Steichen, appuyée par Walker Evans aussi, grand photographe qui était à l'époque très proche de Robert Frank. Et puis par un autre grand personnage de la photographie new-yorkaise de l'époque, qui était Alexis Brodovitch, qui était un grand directeur artistique qui travaillait pour les journaux de mode. Et c'est intéressant de voir que trois personnalités très différentes se sont rassemblées pour soutenir le travail du jeune Robert Frank à cette période.
Alors être parrainé par Walker Evans, c'est pas mal, Raymond Depardon. On imagine, vous partez plusieurs fois aux États-Unis, mais il y a une première fois et un livre en rencontre, votre voyage américain de 69-99, Depardon USA, c'était d'ailleurs une exposition présentée aux rencontres d'Arles, de vos photos et réunies en beau livre chez Xavier Barral l'an passé. Quand vous arrivez là-bas, vous aux États-Unis en 69, pour la première fois, pour ce premier grand pèlerinage, voyage photographique, est-ce que les photos de Robert Frank sont déjà une référence pour vous? Est-ce qu'elles influencent déjà votre regard?
Ah oui, bien sûr. J'ai presque l'impression que j'ai connu Robert Frank avant Henri Cartier-Bresson. Mais en fait, c'est faux parce que Cartier-Bresson a eu son expo bien avant. Enfin non, en fait, je crois qu'elle l'a eu après. Mais en fait, bon, c'est pas tout à fait... C'est vrai que... Peut-être que chacun a son père, hein. Et à un moment donné, d'ailleurs, il faut peut-être s'en séparer. Là. Mais c'est vrai que Robert Frank, c'est dans ces, pour ma génération, les États-Unis représentaient un énorme mouvement photographique. Moi, ma chance, c'est que je parlais mal anglais, je parle pas anglais. Donc, j'ai pas pu me fiancer avec une américaine. Ce qui est le cas de pas mal de photographes que je connais. Et ils sont restés aux États-Unis. Donc, voilà. Je suis resté un peu étranger avec les États-Unis et à la fois fasciné. Parce que c'était aussi au cinéma, aussi en photo. Et on avait déjà quand même un peu perçu, d'ailleurs, les Américains. Ça m'a pas empêché, moi, dans les années 80, je me souviens, au moment de la correspondance d'une orchestre, de le voir en solde, les Américains, une version américaine, qui n'était pas celle de Delpierre, bien sûr.
Alors, les Américains, le livre, on va y venir. Mais d'abord, juste sur l'influence qu'il a eue pour vous, quand vous vous rendez pour la première fois aux États-Unis, si ces images avaient déjà traversé l'océan.
Il est plus accessible. Pour moi, il est plus accessible qu'Henri, que je respecte beaucoup aussi, parce que Henri se reposait sur un editing extrêmement rigoureux, avec le concours de Delpire, sur une phase beaucoup plus esthétique, comme ça, un moment, quelque chose de plus esthétique. Robert Franck, lui, c'était quelque chose, entre guillemets, je mettrais, plus existentiel, presque pas loin d'une photo ratée, quelque part. Mais elles sont pas ratées, mais je dirais comme ça. Une photo qu'on pourrait... Quand on regarde ces planches contact, on pourrait penser qu'elle est ratée. Donc quelque chose qui est un moment un peu plus faible, moins performant, mais qui donne beaucoup d'atmosphère par autre chose. Moi, je le compare beaucoup à un écrivain. Quelque chose qui me donnerait une sensation, comme ça, des États-Unis, un petit peu triste, un grand territoire, un peu vide. Donc quelque chose qui me paraît abordable, que je pourrais faire. Ça donne une envie, on a envie d'imiter Robert Franck. Or qu'on n'a pas trop envie, on peut pas, et on voit bien qu'on peut pas imiter Cartier-Bresson. C'est un virtuose, il est très très fort, quoi. De rien du tout. Et à la gare Saint-Lazare, Gog, il saute une flaque et il appuie au bon moment. Bon, donc il maîtrise parfaitement le moment et l'esthétique de les photos. Robert Franck, même s'il y en a quelques-unes de grandes photos, on se dit, tiens, mais pourquoi je pourrais pas faire ça? Pourquoi? Et à la fois, quand on regarde ces photos, quand on regarde ces photos aujourd'hui, elles n'ont pas bougé. Elles sont d'une modernité incroyable. Mais, moi, j'invite tous les jeunes photographes à regarder, même s'ils font de la couleur, peu importe, ou autre chose, parce que ça fait du bien à l'œil. Et c'est une très bonne introduction à la photographie. Et au fond, finalement, à quelque chose qui est particulièrement dur en photographie, c'est à la traversée du temps. Parce que forcément, on aime bien les photographies aujourd'hui, mais dans 10 ans, 20 ans, 50 ans. Ça, c'est le travail de Quentin, qui connaît bien la photographie, historien et conservateur. C'est ces problèmes du temps. Les photos, elles vieillissent. Et il y a des moments, il y a des photos, elles ont pris quelque chose, je dirais, un peu du vieux. Et ce qui est la force de Robert Franck,
c'est que ces photos ont bien vieilli, ouais. Ou en tout cas,
enfin, moi, c'est mon impression, ouais. Comme ça.
Vous évoquiez, vous dites, on aurait pu le prendre pour un écrivain. Il y a aussi la comparaison qui est faite, Quentin Bajac, entre les photographies, le geste photographique de Robert Franck et les peintres. Il y a d'ailleurs au MoMA un voisinage muséal dont il devait être fier, hein, puisqu'il revendiquait comme source d'inspiration des peintres d'abord, Edward Hopper, les expressionnistes abstraits ensuite, comme Jackson Pollock ou Willem de Kooning. Ça, c'était ce qui semblait être aussi des références importantes pour lui. Son assistant, en 67, le photographe Ralph Gibson, dit dans Libé qu'il a introduit le même geste ample que ses peintres dans la photographie. Vous êtes d'accord avec lui ?
Oui, même si, en effet, il a toujours dit qu'il avait une grande admiration pour Edward Hopper, et que notamment les figures solitaires étaient quelque chose qu'on retrouvait dans sa photographie. C'est vrai qu'il a côtoyé à New York, dans les années 50, certains des grands expressionnistes abstraits de la même période, qu'il a même fait un film dans lequel on voit Larry Rivers en 59. Cela dit, je suis assez d'accord avec Raymond que la comparaison, elle serait plus avec l'écriture. Enfin, c'est l'idée d'une caméra stylo, qui est une idée qu'on trouve exprimé dans le cinéma dans les mêmes années, dans les années 50, et que une des forces, à mon avis, de Franck, ou peut-être sa principale force, c'est d'avoir justement rendu la photographie comme une forme poétique complète, et d'avoir finalement créé une photographie d'auteur à l'époque où se crée un cinéma d'auteur à la même période dans les années 50. Donc il y a vraiment une forme d'expressivité assumée, revendiquée, même si lui-même s'en méfiait. Et il voulait toujours un peu mettre à distance cette expressivité en disant pas trop d'esthétisme, mais plus de vérité. Donc il y avait tout de même cette idée que l'important finalement, c'était quand il dit « closer to people » dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'était ce rapport avec le réel.
Et quelle génération d'écrivains, avec qui vous l'associeriez? Parce qu'on l'a évidemment beaucoup rapproché de la Beat Generation, avec Kerouac qui a préfacé les Américains, ou avec Ginsberg qu'il aimait beaucoup.
Ben avec justesse, je pense, avec justesse. Il y a en effet ce style syncopé dont parlait Raymond, ce style heurté, ce gros grain des images. Et puis, voilà, Kerouac, dans sa préface aux Américains, parle d'une forme poétique, justement. Il parle de ce triste poème de l'Amérique. Il dit que Robert Frank se place au rang des grands poètes de son temps. Et lui-même, Robert Frank, revendiquait cette forme poétique. Il disait, j'aimerais qu'on regarde mes images, qu'on regarde deux fois mes images, comme on peut lire deux fois un poème. Donc il y avait cette idée d'une forme peut-être pas évidente et qui nécessitait d'être regardée, d'être étudiée pour être pleinement comprise, si tant est qu'on puisse pleinement comprendre une photographie de Robert Frank.
Les Américains, 1958, version française chez Robert Delpierre, version américaine chez Groove Press, un an après, Les Américains préfacés par Jacques Kerouac. Ce livre est le fruit de 3 ans à voyager à travers les États-Unis pour Robert Frank, sur la route, Détroit, Miami Beach, la Nouvelle-Orléans, Los Angeles, Salt Lake City, plus de 30 000 photos avec des motifs récurrents et surtout au final avec une image de l'Amérique et des Américains. En introduction, donc, ces mots de Jack Kerouac. « Cette impression démente, écrit-il, en Amérique, quand le soleil brûle les rues et que la musique sort du jukebox ou d'un enterrement tout proche. Voilà ce que Robert Frank a saisi dans de formidables photographies prises alors qu'il voyageait sur la route à travers presque 48 États dans une vieille bagnole pourrie, grâce à une bourse Guggenheim, avec l'agilité, le mystère, le génie, la tristesse et l'étrange secret du nombre photographiant des scènes qui jusque-là n'avait jamais été enregistré sur pellicule. » La réponse de Robert Frank.
It's a sort of sad comment on America, what a sad country it is, and what kind of hopeless.
C'est une sorte de commentaire triste sur l'Amérique, sur la détresse qu'il y a. On m'a dit qu'il était injuste que j'intitule ce livre « Les Américains ». L'introduction de Kerouac n'a pas été d'un grand secours dans ce sens. Mais petit à petit, les temps ont changé et une génération plus jeune est venue. J'observe le changement. On fait son travail du mieux que l'on peut. 10 ans plus tard, on regarde la période où l'on a travaillé, la façon dont on a été influencé par ce qui se passait autour, sur le plan graphique, photographique, éditorial. Ce genre de réflexion m'a amené à avoir davantage confiance en moi, à ne pas me fier au reste. C'est ainsi que l'on arrive à produire le meilleur.
2009, exposition au Jeu de Paume, Robert Frank, Un regard étranger, exposition dans laquelle est projetée, diffusée cette vidéo et ces mots de lui, Raymond Depardon, sur les Américains, sur ce livre phare aujourd'hui de l'histoire de la photographie. Il n'a pas tout de suite, ces photos n'ont pas tout de suite été appréciées à leur juste valeur, telles que vous nous les décriviez aussi. On lui a reproché le regard assez négatif qu'il posait sur les Américains.
Oui, surtout en Amérique. Mais c'est vrai que l'Amérique avait peut-être un peu... On était dans une période où way of life, c'était tout était beau et tout. C'est vrai que c'est plus les Européens, et c'est vrai que c'est pas par hasard que ça soit Delpierre qui l'édite, ce livre un petit peu qui ressemble à rien d'autre, et à la fois aujourd'hui.
Parce qu'au début, les éditeurs américains n'en veulent pas.
Oui, oui.
Les Américains n'en veulent pas. Ouais, c'est vraiment en effet l'édition française de Delpierre qui fait qu'un éditeur américain se décide à la publier sous une forme finalement très différente de l'édition de Robert Delpierre.
Mais ces 83 photos, en fond, elles sont donc il y a un mot clé qui est les Américains, qui réunit un peu, comme on dit maintenant en informatique, pour faire rentrer la photo dans l'informatique. On est obligé de mettre des mots clés. C'est les Américains, mais en fait, on s'en fout des Américains. C'est c'est un travail. Et c'est un travail qui n'est pas rattaché à quelque chose, d'un thème, comme beaucoup d'autres photographes. Moi, j'ai beaucoup, par exemple, si on prend Joseph Kudelka, que j'aime beaucoup, lui, son grand travail, c'est un peu les gitans. C'est beaucoup plus serré, c'est beaucoup plus précis. Là, c'est quelque chose, très ouvert, comme ça. Et donc, on s'aperçoit, moi, surtout, à cette époque, j'étais très photojournaliste, parce que, il me parlait, et j'ai eu la chance ensuite, après, de le rencontrer. C'est quelqu'un qui m'influençait, parce qu'en me disant, mais, toutes ces photos que je fais pour la presse, qu'est-ce que ça voudra dire dans quelques années? En fait, je me fais un effort énorme pour faire ces photos, mais c'est peut-être pas très important. Bon, moi, c'était comme ça, une façon d'exister, de faire des photos. Et ça restait pour moi, un but comme ça, d'être libre. Et c'est ça la force des photos c'est sa grande liberté. Et puis, on sent quelqu'un qui est très, précis, qui est intelligent, moi j'ai eu la chance de le rencontrer à Beyrouth au début des années 90 et on habitait le même hôtel, donc je prenais le petit déjeuner avec lui et j'avoue que je buvais du petit lait parce que je lui posais des questions de savoir, on est tous un peu méchants dans le métier mais c'est comme ça, je lui disais qu'est-ce que tu penses de tel photographe, bon voilà, donc et je savais qu'il était extrêmement rigoureux.
Quoi, juste dans son jugement ou
Oui, parce qu'il avait les mots justes de dire, voilà...
Qu'est-ce qu'il pensait de vous, vous lui avez demandé? Enfin, de votre travail photographique.
Il dit que je suis vraiment un Français. je suis un vrai Français. Alors peut-être qu'il voit des faux Français qui habitent New York, mais voilà, et il se trouve qu'il parlait français puisqu'il était suisse et il parlait très bien français et il était très tendre comme ça, c'était quelqu'un, mais c'est vrai que c'est aussi sa démarche est très originale, mais ça a été la même aussi avec d'autres photographes, c'est voilà, il fait un travail formidable, est-ce qu'on continue dans le même style ou on s'arrête? Et il s'est un peu arrêté, il a voulu s'arrêter, il a fait du cinéma direct, il a fait des films, il a refait d'autres photos, mais qui sont d'ailleurs très intéressantes, il est venu en France et tout, mais ça fait partie un peu pour moi, de la période des Américains, il était au Pérou, mais il a vu que c'était pas non plus l'exotisme, c'était pas son truc, donc il s'est arrêté là, et c'est terrible parce qu'on voudrait qu'il continue, quoi. Mais à la fois, il sentait bien qu'il avait fini son travail.
Quentin Bajac, alors il y a un avant et un après les Américains dans l'histoire de la photographie, mais aussi un avant et un après les Américains dans la vie de Robert Franck.
Oui, sans doute. Raymond le disait, je pense qu'il n'a pas voulu se répéter après ce qu'il a peut-être perçu à l'époque comme un chef-d'œuvre, même si en effet la réception de la presse, notamment de l'époque, a été très mitigée, pour ne pas dire parfois carrément hostile, face à ce Suisse qui portait un regard si triste sur son pays d'adoption. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, la perception de Robert Franck est paradoxale, parce qu'il est considéré comme un des plus grands photographes du XXe siècle, mais jugé uniquement à partir de ce corpus, de ce format très modeste de ces 83 images des Américains. Or, on sait qu'il a été, à mon avis, un cinéaste très intéressant et important, et qui est aujourd'hui regardé et apprécié par une diverses générations, de Jim Jarmusch à Richard Linklater, sont des gens qui sont inspirés, qui ont revendiqué cette filiation. Et puis il y a un travail photographique très intéressant quand il revient à la photographie dans les 70. Malheureusement, ça n'a pas été présenté en livre parce que ce sont des images qui sont plutôt faites pour être présentées au mur que d'être reproduites dans les pages d'un mur. Donc ce travail sur les murs d'un musée, donc ce travail n'a peut-être pas eu la diffusion qu'il mériterait, mais c'est un travail très différent, beaucoup plus autobiographique, très expérimental, mais qui, à mon avis, dans la continuité des Américains, dans une de ses interviews, il dit « J'ai toujours voulu sortir du cadre ». Et dans les années 50, il voulait sortir du cadre, qui était finalement le cadre commercial de la photographie classique de photoreportage. Dans les années 70, il veut sortir du cadre, et c'est pour ça aussi qu'il retravaille ses images, il les assemble, il les colle, il gratte sur les négatifs, il peint sur les tirages. Donc avec toujours cette volonté de sortir d'un cadre trop classique qu'on lui imposerait.
Midi 21 sur France Culture avec nos invités, le directeur du Jeu de Paume, Quentin Bajac, et le photographe réalisateur Raymond Depardon. Un regard s'est éteint en septembre, c'était celui de Robert Franck, et une voix s'est éteinte hier, c'était celle de Jesse Norman.
September, extrait des quatre derniers leaders de Strauss par le Gewandhaus de Leipzig, dirigé par Kurt Masur. Hier, lundi 30 septembre, donc, la voix de la soprano Jessie Norman s'est éteinte à New York. Elle avait 74 ans et s'était faite connaître du monde entier par ses interprétations puissantes des plus grands classiques du lyrique, mais aussi par ses engagements. En 89, elle avait notamment entonné, vous vous en souvenez tous, une Marseillaise de légende, place de la Concorde à Paris, lors des cérémonies du bicentenaire de la Révolution.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Le photographe était vraiment dans l'escalier le plus bas. Alors ça m'a pris 40 ans de monter jusqu'ici.
Il lui aura fallu 40 ans pour réussir, voilà ce que disait Robert Franck, Raymond Depardon. Robert Franck est passé durant son voyage pour cette série Les Américains par Hollywood. Ça a été une des étapes de son road trip. En 1982, les Cahiers du cinéma vous y envoient aussi avec Olivier Assayas, alors critique, pour y rencontrer le petit monde du cinéma. Présence tranquille, chat très agile, dit de vous Serge Toubiana en préface. Comme Robert Franck, en son temps, vous captez les détails que les autres ne perçoivent pas. Hollywood en 80, Hollywood en 58, on pourrait comparer vos photographies. Et étonnamment, il n'y a pas tant de différence. Vous y voyez les mêmes détails, comme une sorte de tristesse et de mélancolie déjà dans ce monde de fête ou ce monde de fiction, cette fabrique du rêve qu'est Hollywood.
Oui, c'est vrai que moi j'aime bien, je sais que les Français n'aiment pas trop Los Angeles, ils préfèrent San Francisco, mais moi je préfère Los Angeles parce qu'effectivement il y a quelque chose comme ça, un peu d'éphémère, une grande tristesse de ces studios vides. Une ville étendue, comme ça, assez, pas sans centre-ville. On est encore toujours, là moi je reviens du Dakota, on est encore toujours marqué aux États-Unis par, peut-être plus qu'en France, par les années 50. Années 30, non, mais années 50. Il y a quelque chose qui fait que dans la philosophie américaine, ils aiment bien conserver, en fait, finalement, bizarrement, mais c'est eux qui ont inventé le mot vintage, plus que nous, garder les vieilles choses. Et donc, finalement, ils ont ces, effectivement, comme on voit, j'ai refait une photo de Robert Franck presque inconsciemment, parce que je savais bien qu'il est Robert Franck. Ces bâches qu'on met sur les voitures, qui est une grande photo de Robert Franck. Et effectivement, j'ai au coin d'une rue, dans un studio, je suis tombé sur quelqu'un qui avait mis une bâche sur les voitures. Les États-Unis, bien sûr que c'est un pays très très moderne aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de survivance de quelque chose qui est de l'époque de Robert Franck. Et même de Walker Evans aussi, si on va plus loin, de cette époque-là, aujourd'hui, dans les rues de Los Angeles, mais aussi de toutes les États-Unis. Quand moi j'étais à Rapid City, ça ressemble vraiment encore aujourd'hui aux photos de Robert Franck.
Quentin Bajac, on va écouter pour finir les mots de Joël Meyerowitz, un photographe en dette par rapport à Robert Franck.
Robert, c'est la raison pour laquelle je fais de la photo. Quand j'étais un jeune directeur artistique en publicité, j'ai fait un petit bouquin et mon patron a demandé à Robert de photographier. Moi, je ne connaissais rien de la photographie. Et après avoir vu Robert photographier deux jeunes préados, filles, j'ai découvert ce mouvement. Et les photos sont compatibles, la compatibilité d'une façon que je n'imaginais pas précédemment. Je suis retourné à mon bureau et j'ai démissionné aussitôt. J'ai emprunté un appareil photo, je suis sorti dans la rue. Et un ou deux ans après, j'ai découvert son grand livre, The Americans, qui est publié ici à Paris. Et ça a changé ma vie. Et deux fois dans une année, Robert, par deux fois, il a changé ma vie.
Joël Meyerowitz, grand photographe, à propos de sa dette envers Robert Franck. Deux fois, il a changé ma vie, dit-il, Quentin Bajac. Qui sont les héritiers directs aujourd'hui pour vous de Robert Franck? Un homme photographe, cinéaste, qui refusait les honneurs, qui vivait plutôt un peu à part, mais qui a quand même laissé aussi une trace et des fidèles derrière lui.
Oui, deux et peut-être même trois générations de fidèles, en fait. La première, ça a été la génération des grands Américains qui ont d'ailleurs été consacrés par le MoMA quasiment 10 ans après l'apparition des Américains dans une exposition New Documents, donc Diane Arbus d'une certaine manière, parce qu'il y a aussi une critique ou une attention aux marges de la société américaine qu'on retrouve déjà dans les Américains. Lee Friedlander avec son style heurté, son goût aussi pour le paysage, les images dans l'image, etc., qu'on retrouve chez Frank. Et Gary Winogrand, qui à mon avis est celui des Détroits, qui est le plus directement inspiré par Frank. Et puis, la génération d'après, Nan Goldin, sans doute, évidemment, par ce goût de l'intimité, de l'autobiographie. Et donc, Nan Goldin, les Américains, mais aussi peut-être aussi le Robert Frank des années 70. Et je dirais toute une école du noir et blanc et du gros grain, qui peut aller des Japonais, Moriyama, évidemment, ou plus près de nous, dans les Européens, Anders Petersen. Donc, il y a en effet deux, trois générations de photographes qui ont été inspirés par Robert Frank, même si, c'est vrai, lui s'est retiré et a finalement peu produit. Il a reconsidéré son œuvre, il a retravaillé certaines de ses images.
Merci beaucoup à vous, Quentin Bajac. Vous reviendrez bientôt nous voir, puisque vous êtes donc maintenant à la direction du Jeu de Paume avec cette première exposition que l'on vous doit et qui commencera au fil du mois, celle de l'artiste new-yorkais Peter Ujar, dont vous viendrez, j'espère, nous reparler. Merci beaucoup à vous. Raymond Depardon, je vous ai demandé de rester avec nous pour la deuxième partie de la Grande Table, où on va donner une image actuelle de l'armée française, de ses nouvelles recrues. Et bien justement, vous présentez une double exposition événement, vos photos réalisées dans les années 60. À l'époque, vous faites votre service militaire et vous collaborez à la revue Terre, Air, Mer, la revue des armées. C'était le portrait d'une génération dans l'armée, celle des années 60. Aujourd'hui, deux journalistes font celle de la nouvelle génération. On va comparer vos regards. À tout de suite.